Je pense vous faire découvrir un poète de langue française qui est, hélas, tout à fait ignoré chez nous. Il s'appelle Benjamin Fondane. Et on pourrait intituler cette émission « Notre mal des fantômes ». Cette musique qui va nous accompagner tout le long de cet hommage à Benjamin Fondane, et de Georges Enescu, un de ses compatriotes, roumain, et exilé comme lui, à Paris, à peu près, un peu plus tôt, c'était plutôt les années 1930. Jérôme Fandan, c'est cette voix qui disait ceci. Un jour viendra, c'est sûr. De la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous. Une bouche qui priait comme vous. Et qu'à la mort est venue. Peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire à cette heure, est entré à mes yeux étonné. Étonné de si peu comprendre. Mais avez-vous mieux compris que moi? Je vous rappelle que Benjamin Fandan écrit en français. C'est un poème de l'année 42, dont on reparlera, l'année de sa mort. Crier toujours jusqu'à la fin du monde, c'était ainsi que l'aura finalement voulu Benjamin Fandan. Le monde s'épuise et se termine, mais son cri, lui, est toujours présent, actuel, pénétrant. C'est une voix de conscience, une voix de lucidité, de réveil, qui nous parle et qui nous dit « Je suis de votre race, j'emporte comme vous ma vie dans ma valise » et qui nous clame sa fraternité d'humain, de contemporain à toutes nos douleurs et nos joies. Mais qui se souvient aujourd'hui du poète, du philosophe, du dramaturge qu'était Benjamin Fandan? Juif, naturellement juif, et cependant comme Ulysse, toujours en Odyssée. Mais c'est la présence forte du judaïsme dans son œuvre. Elle apparaît, vous le verrez, de façon annexe. Il sera avant tout un homme, roumain avant que d'être parisien, et de recommencer toute son œuvre en français. Il est de cette génération littéraire qui a enrichi la France, cette littérature roumaine, Paul Celan, Suran, il arrive au Ronca, Eliade Mircea. Il est le seul, pourtant, à avoir plus de réalité parmi nous. Il est comme un fantôme pris du mal des fantômes. Il fut l'égal, l'ami, et l'égal surtout de tout ce que j'ai cité. Et je tiens son poème qui s'appelle Préface en prose, que je vous lirai complètement, comme le seul pendant digne d'être mis à côté du poème célèbre de Paul Celan, Todes Fugue, Fugue de mort. Mais lui, il emploie un langage très simple, presque un langage de tous les jours. Il est loin de la douleur en framant obscur et éclaté qui est celle de Paul Celan. Mais les deux sont très grands. Mais alors que son écriture, à lui, est évidente, originale, elle n'est plus lue, elle n'est plus publiée. Vous trouverez actuellement aucun livre, aucune trace de Benjamin Fandan. Pourtant, il dit ce qu'il a à dire avec les mots, nos mots, de tous les jours. Voilà ce qu'il dit. « Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il en reste si peu d'intelligibles. » Il était aussi philosophe. C'était l'ami de Chestov, qui fut son grand gourou, de Gaston Bachelard, de Marc Chagall, d'Arthur Adamoff, d'Antonin Artaud, de Tristan Tzara, d'Émile Cioran. Et pourtant, il est passé comme une étrange comète. Mais tous ceux qui l'ont croisé gardent toujours intacte en lui la belle blessure que fut sa traversée du vivre. Cette musique, toujours d'Enescu, son Dixture, une œuvre de jeunesse, c'est simplement pour vous faire ressentir toute cette nostalgie profonde qu'avaient les Roumains exilés à Paris pour leur mère patrie qui devenait bien autre chose que ce qu'ils avaient connu. Le 7 mars 1944, Benjamin Fondane, lapsus révélateur, est arrêté par la police française, chez lui, rue Rollin, sur une dénonciation de braves Français. Il est arrêté en même temps que sa sœur Lynn. Ils sont envoyés à Drancy avant d'être déportés à Auschwitz le 30 mai. C'est d'ailleurs l'avant-dernier convoi qui partira de Drancy, le numéro 75 pour être précis. Il sera gazé à Birkenau le 2 ou le 3 octobre 1944, on ne sait pas exactement. Et pendant son emprisonnement, il déclamait debout, il avait une haute stature, du Baudelaire à ses compagnons d'infortune. D'ailleurs, un témoignage qui nous est parvenu nous dit la chose suivante. Le lundi 2 octobre, dans l'après-midi, les camions vinrent chercher ce qui avait été désigné pour la chambre à gaz. Je vois encore Fondane sortir du bloc, passer très droit devant la SS sans les regarder, fermant le col de sa veste pour se protéger du froid et de la pluie, et monter dans le camion en silence. Il faut savoir que Benjamin Fondane avait refusé sa libération parce qu'il était marié avec une Arienne, et il aurait donc pu l'obtenir. Mais comme sa sœur restait prisonnière, il l'a refusée. Une autre anecdote pour décrire quelle était la hauteur de ce personnage, c'est que, caché, traqué par la Gestapo, avant d'être finalement amené, il assistait au cours de son ami Gaston Bachelard à la Sorbonne. Mais il le faisait cacher pour que Gaston Bachelard n'ait pas d'ennui. Il était ainsi. Il était né en 1888 à Iași, c'est en Roumanie. Son véritable nom est Benjamin Wexler. Et pour se faire adopter en Roumanie, lui qui venait du petit îlot dont je vous ai souvent parlé, l'îlot de langue allemande, cette île de culture au milieu d'un domaine roumain où la culture n'était pas à son apogée, il choisira très vite un nom d'emprunt, d'écriture, pour publier dans la revue. Ce nom d'emprunt sera Benjamin ou Benjamin Vuntainianu. C'était un écrivain précoce et il était déjà très connu. Pourtant, il s'en va très vite. Il a compris que quelque chose allait se dérouler ailleurs et certainement pas en Roumanie. Et il débarque à 25 ans à Paris, en 1923, attiré par toute l'exaltation culturelle qu'il y avait dans le milieu intellectuel parisien. Il faudra bien vivre. Alors il sera agent d'assurance, scénariste de cinéma au studio Paramount. Et il décide d'écrire dorénavant uniquement en langue française, qu'il connaissait un peu, mais qu'il va réapprendre totalement. Parce que la deuxième langue nationale en Roumanie n'est pas l'allemand, c'est le français. Et ainsi, il ira jusqu'au bout de sa double identité qui fera de lui toujours un éternel émigré. Il sera naturalisé français en 1936. Son essai sur Rimbaud va le rendre célèbre. Et son poème Ulysse, un grand poème de méditation sur la poursuite de l'éternel Ithaque, tout cela est de 1933. Il côtoie le mouvement surréaliste, mais il le refuse. Ainsi qu'il refuse la psychanalyse freudienne. Il ne se laisse pas enfermer là-dedans et préfère mener de front œuvres philosophiques et poétiques. Il applique la pensée de Chestov, aussi bien d'ailleurs au cinéma, à la poésie, à la philosophie, à l'anthropologie, à la critique en général. Parce que je vous ai dit qu'il était aussi et avant tout philosophe. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs. L'écrivain s'adresse non au social mais à l'individu. Et l'individu, non de passion de surface à passion de surface, mais de région profonde à région profonde. Ceci pourrait être encore utilisé aujourd'hui. Il sera de tous les combats, de tous les débats de la pensée, avec courage, avec lucidité aiguë, reconnaissant dans Céline et Heidegger, bien avant tout le monde, et bien avant Finkielkraut d'ailleurs, les germes pourrissants et fascisants qui vont empoisonner le monde. Il posera les bases de la pensée existentielle, bien avant Sartre. Il veut convaincre, et dans sa poésie, le seul domaine abordé, ici, on ne parlera pas de son œuvre philosophique, il va vers le lecteur, le saisit, l'empoigne, le fait complice dans une langue d'évidence. Toujours d'Enescu, la symphonie de chambre, pour montrer un peu également le dramatisme qu'il pouvait y avoir. Benjamin Fonden porte en lui une très haute idée de la poésie, et il doit se colleter, se battre avec le réel rugueux. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs, qui définit très bien ce qu'il fait. La supériorité du poète sur l'homme normal vient de ceci, qu'il ne se fuit pas entièrement, ne se guérit pas avec l'autre, mais avec le même. C'est de son propre néant qu'il fait sa poésie. De là, l'évidence du néant sur lequel il porte témoignage. De là aussi la nostalgie de ce dont on a trop vite guéri. C'est Fonden qui le dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il a très bien compris ce qu'il écrivait. Et je pense que ce n'est pas la peine de faire dans le discours. De tout ceci, de toute façon, Fonden a rendu compte de ce corps à corps avec le poème. Il sait d'avance que ce n'est pas le poème qui est dans les mains du poète, mais le poète dans les mains de son poème. Il situe sa pensée sur une réflexion sur le mal, comme d'un combat contre le mal. Voilà ce qu'il dit. La liberté ne consiste pas dans la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Elle consiste dans la force et le pouvoir de ne pas admettre le mal. Juif, bien sûr hérétique au sens religieux, il sera un juif révolté. Comme il le dit, je ne suis pas vêtu de prières anciennes, mais moi je suis dans l'irrésignation, dans le refus de se soumettre. Il est, pour moi, essentiellement juif, mais en aucun cas simplement pouvant être réduit à un poète juif. Voilà ce qu'il dit. Je pose mon poing dur sur la table du monde. Je suis de ceux qui n'ont rien, qui veulent tout. Je ne saurais jamais me résigner. L'hiver de Dieu, l'hiver des hommes, peuvent être surmontés pour Fontane. Et son écriture prend des accents prophétiques. Il est l'Ulysse du voyage existentiel dans un monde déserté par Dieu et blessé par la guerre. Il faut se persuader, dans l'obscure certitude, que l'existence a un sens. C'est pour ça qu'il refusera beaucoup les existentialistes, les aquabonistes, si vous voulez. Pour lui, la poésie remplit d'abord cette mission sacrée. L'homme est un animal que la poésie pétrit dans l'argile ou qu'elle fait sauter à coups de dynamite. Lui-même avait défini dans une revue, bien sûr disparue, sa poésie. Et il parle de lui à la troisième personne. L'univers poétique de Fontane est de nature tragique. Point de fuite pour l'homme. Le personnage central en est les migrants. Le flux des choses en fait la toile de fond. Le cœur y articule toutes les soifs de l'être. Mais cet univers, par là même que poétique, est discours et langage. Les poèmes de Fontane sont une véritable odyssée existentielle. Et il dira, un jour viendra sans doute où ce poème lu se trouvera devant vos yeux. Ce jour est là aujourd'hui puisque je vais vous lire quelques poèmes, pas mal de poèmes. D'ailleurs, actuellement, on ne trouve plus aucun texte, je l'ai dit, de Benjamin Fontane. Si vous arrivez à vous procurer chez des bouquinistes, le seul livre qui vaille, qui est publié dans la collection Les Terres Vagues en 1996, s'appelle Le Mal des Fantômes. On avait un peu parlé de lui sur France Culture, dans une émission qui s'appelait, d'ailleurs, « Crier jusqu'à la fin du monde ». Nul, depuis, n'a rallumé la flamme. Alors je trouve, disons, nécessaire d'arrêter de vous parler de Fontane et de lui passer la parole, en faisant une sorte de petite anthologie des poèmes, de ses poèmes, en espérant un jour que vous puissiez aussi les trouver imprimés. C'était toujours le Dictionnaire de Georges Enescu. Maintenant, je vais vous lire quelques poèmes de Fandane, parce que je pense que c'est l'essentiel, non pas de disserter en vain sur lui, surtout qu'il n'y a quasiment aucune trace de sa biographie. Je vais commencer par le plus célèbre et le plus beau selon moi, qui s'appelle « Préface en prose », qui est de 1942, alors que Benjamin Fandane se cachait déjà à Paris pour échapper à la Gestapo et à la milice française. Voilà ce que dit ce poème, dont je vous ai cité quelques extraits, mais là je vais vous le lire entièrement. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il ne pas crier vengeance ? L'allié est donné, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligible. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait, ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel, et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire et titubant, hagard à l'heure de l'échec. Oui, j'étais un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs, je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher, sous l'œil de Dieu, des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs. Je mangeais des frites le soir. Après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur là et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous aurions perdue naguère. Dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins, je n'ai rien compris au monde et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée toute en mes yeux étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi ? Pourtant, non. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux, les sanglots amers de l'humiliation, accusés d'un délit que vous n'avez pas fait, de meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir ? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en cette histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. un autre poème. Avons-nous avancé assez dans l'apparence, assez vu cette vie couler, couleur de vitre? Nous sommes blessés aux choses d'outre-monde, portes fermées, ô vision. C'est la même chanson stupide et décevante, le même espoir avec des sources dans la voix, à même inexplicable envie d'un sanglot dont on ne sait que faire. Tous ces cheveux tombés, ces cils et ces ongles laissés derrière nous, veux-tu qu'on s'en souvienne? La nuit est là, le monde meurt et la forêt pleine de craquements nouveaux. Ces choses anciennes dont on ne parle plus, quelques-unes d'hier et d'autres jetées dans les égouts avec les vieux mégots, vécues, jetées aux quatre vents, nous avançons ensemble. Il fait hiver, il gèle. Ensemble, il nous faudra engendrer l'avenir. Ensemble, nous tendons la main. La Seine coule. Que sommes-nous? Le vent m'emporte. N'êtes-vous que des fables comme tout ce qu'il y a été? Oh, chose à peine croyable. Et pourtant, un temps viendra où moi, je ne serai qu'une fable, une sorte d'absurde de secret mythique, existence qui exista. Où donc? En quel siècle? La Seine coulait en ce pays, elle charriait encore des cadavres, des dieux et quelques vieilles superstitions étranges. Nous n'avons rien à dire aux ombres qui ont cherché refuge en nous. Elles parlent si bas qu'on ne les entend pas. Elles parlent une langue étrangère, inconnue. Elles donnent des fêtes énormes et parfois, en ouvrant une porte sur un escalier sans issue, un air nous envahit, délicieux, absurde, qui n'est certes de nulle part. Un autre poème maintenant. Ce n'était pas de l'étonnement, mais peut-être une sordide angoisse qui m'avait fait pousser dans ce faubourg d'ortie, juste au moment où l'on y ramassait le ciel. Je n'y avais jamais été, que je sache. Je ne pouvais savoir s'il existait vraiment. En avais-je rêvé? Mais je savais, maison par maison, tous les noms des habitants et leurs commerces, le nom des gosses et ceux de leur ange gardien. Je m'intéressais surtout à une femme enceinte qui devait loger là ou à quelques émigrants revenus d'Amérique. Je n'étais pas fixé. Ils s'attachaient à eux, je ne sais quelle idée qu'il me fallait tirer au clair, de trésors enfouis, d'enfance fabuleuse, de meurtres impunis, ou d'une fin du monde absolument moderne. Un autre poème. Il y eut autrefois des choses sans musique, des pays qui fondaient comme un fruit dans la bouche, des étés haletants, des silences plus frais que neige, des êtres qui entraient en vous et qui sortaient sans qu'on s'en rendît compte. Nourriture, paresse savante, jus d'oiseau, idiome heureux, échange, de sorte qu'on était ce qui entrait en nous, parfois un cil, parfois un ange, parfois un baobab ou lâche faisait des blessures délicieuses. Et quand, souvent, des femmes ou des sangsues roses se collaient à notre corps, on éprouvait soudain la joie d'être mangé et le délice affreux de devenir nôtre. Ces choses n'avaient ni commencement ni fin. Cela ne finissait pas d'être, pas un trou, pas la moindre fissure, pas un village, pas un visage lézardé. Les hommes se tenaient coude à coude, serrés, comme pour empêcher qu'on y passe. Pas une absence entre deux vagues, pas un ravin entre deux mots, pas un passage entre deux seins lourds, gras. Et pourtant, au travers de la muraille lisse, quelque chose suintait. Écho rancide d'une fête étrange, une sueur de musique, les gouttes d'un sang frais qui caillait aussitôt sur la peau morte du monde. Je n'ai jamais rien compris à ces mélanges. J'entrais et d'autres sortaient. Puis d'autres qui tournaient autour du crépuscule ou se penchaient sur les saisons. Et nul ne se doutait que ce n'était pas là la terre ferme, que l'océan n'était pas un jardin suspendu. J'entrais à tout instant dans la vie des autres et j'oubliais de fermer les portes après moi. Chacun portait en lui un monde doux et tendre, des coins où l'on était surpris par la douceur. Je n'avais pas de nom. Comment s'appelait-il ? C'est si bon de ne pas avoir de figure. Si bon d'être poreux, ouvert, qu'à l'heure de dormir, chacun se disait en rêvant « Que sera-t-il encore cette grande journée ?» Sans Dieu, du lendemain. Notre poème. Je ne suis pas le pilote de ce bateau que les aubes ont lavé à grande eau. Mais les soirs, je n'ai pas le droit de commander ou houle, ni mettre de côté un peu d'écume pour mes vieux jours. Toutes ces autres écumes, les mouettes, obéissent à d'autres regards. Je n'ai pas, voyageur toléré sur le pont, en partage avec vous, que le droit d'être jeté dessus à bord, à l'achevée du cycle. De ce droit, ce n'est pas mon dessein d'user. Je vous respecte, marin, et vous, pilote. Je vous serre la main, commandant. Sur ce pont, vous êtes tous chez vous. Oui. Mais moi-même, je ne suis pas d'ici. Et me laisse laver par les aubes. Je triche. Je ne partage pas votre vie. Ma sueur ne se joint pas à votre travail. Mon visage est loin. Oui, mais le soir, sous la lampe, j'exprime le jus de la journée sous mon pressoir. Le temps est fini. On commence notre voyage. Mais là, nous voyageons ensemble dans un poème dont je suis le pilote. En un temps où il n'y a pas de temps. Un autre texte. C'est toute la douleur du monde qui est venue s'asseoir à ma table. Et pouvais-je lui dire non ? Je m'étais fait si petit. Une petite chenille, j'éteins la lampe. Et pourrais-je savoir qu'elle mûrissait dedans ? Et pouvais-je m'empêcher qu'elle sortît un jour ? Une chanson entre ses ailes ? J'ai dit à la douleur du monde qui s'est couchée sous mon ventre, « N'ai-je pas assez de la mienne ? Vois, j'ai ma propre soif. On ne peut pas demeurer une chenille. La terre m'est rugueuse au ventre. Elle me fait mal, votre terre. Je suis né pour voler. » D'un bond, je lui tournais le dos. Mais était déjà dans mon songe. Est-ce mon sang qu'elle voulait ? J'ai dit à la douleur du monde, « C'est une ruse, une sale ruse. Voilà que tu chantes en t'en allant. » Mais à ma place, dites, « L'auriez-vous oublié ?» Ce poème est quelques mois avant la mort de Benjamin Fondane à Birkenau. Il est de 44. Un autre poème. Cette fille est morte, adolescente à New York, dans une clinique ouvrière, qui mêle ses tresses aux miennes sur une vieille passerelle qui seule a subsisté d'un univers anéanti. Quelle rue, quelle ville, quelle année ? Si tu à peine par une odeur deviennes de vieilles gens en train de devenir fantômes. La terre, avec ses longs méridiens sur le dos, tournait. Mais t'est-il vraiment de cette terre qui tournait, ce pays profond, moelleux ? Nous avancions les yeux ouverts, séparés et confondus dans ce falot fouillis de fées qui grinçait sous le poids de nos orteils légers. Était-il donc de cette terre ce pays évanoui, mangé par les fourmis, le vent, et dont je suis le seul voyageur revenu ? Il vient sans être vu sur des chevaux de bois le tremblement de terre et nous entrâme dans un continent nouveau, tant de rues, tant de portes. On trouva l'un de nous dans les objets perdus. Elle est morte du mal d'un drôle de pays qui n'avait figuré jamais sur une carte. Elle est morte, la tête tournée vers le sud de l'adolescente, car la petite fille est morte depuis longtemps. Elle s'appelait Caroline. C'est un nom qui ne dit rien. Notre poème, toujours dans cette filiation humaniste que projeté en lui, Fondane. Un enfant est né, une femme est morte. Comme tu sanglotes, Méditerranée. La mère a crié, le père a prié, le temps est passé à côté de l'heure. de l'éternité, un enfant est né. Quelle saison calme dans l'esprit vaincu. Qui suis-je? Qu'es-tu? Au bord d'une larme. Poème. J'avais crié mon nom en montant l'escalier, et maintenant que des portes s'ouvraient à chaque étage ou se refermaient devant moi, que je pouvais entrer partout avec mon songe ou avec d'autres clés que je portais sur moi, dans des appartements merveilleusement vides, des pièces habitées par des esprits dormants, ou dans d'autres encore, toutes pleines de nus. Cette angoisse me revenait insupportable. Avait-elle entendu mon nom? Devinait-elle pourquoi j'étais monté dans l'escalier? À pas de loup, était-elle sortie en chemise de nuit dans la rue pour crier à qui voulait l'entendre le merveilleux secret que je n'avais pourtant confié à personne? J'avais crié vers toi. Ai-je crié trop fort? N'ai-je pas assez crié? Avec assez de foi? Car le désastre tomba. Je le savais. Il était enfoui en moi depuis longtemps. Je le portais en moi. Je l'avais mûri. Et maintenant, il se détachait en moi comme un fruit mûr. Le fruit réel d'une idée. As-tu jeté un seul regard? La route était sous ton œil. J'y étais, bien sûr, sur cette route. Notre poème qui s'appelle « Ville ». Le silence coula sur mes mains. C'était un orage de sable. La ville était pleine de sable. Où donc étaient-ils les humains? J'avais beau courir dans le vide, suivi lentement de mes pas. Le vide était plus plein qu'une poitrine gonflée qui fait sauter les pressions. Le vide était si plein, j'avais si peur qu'il n'éclatât, que soudain j'ai pensé qu'il me fallait crier, ressusciter la vie, souhaiter le sifflet des bateaux, des sirènes d'usine, la rumeur des meetings, des fleuves de glace qui cassent sous la poussée du printemps, les vitrines brisées des grèves générales, le bruit strident des rémouleurs aiguisant les ciseaux, les couteaux, la criée des poissons dans les halles, la plainte des marchands d'habits, des rempailleurs de chaises, des pianos mécaniques et des musiques perforées. Je zappelais du fond terreux de mon angoisse. Sonorité des étameurs, des camelots, aux chansons nasillardes des marchandes de quatre saisons qui font au printemps maladif l'opération césarienne. Et, peu à peu, je vis céder mon insomnie. Mes oreilles bourdonnaient, une sorte d'âcre paix, une paix nauséeuse, pénétra dans mon sang avec une vieille odeur de drap. Et mon sommeil, ouvert comme une bouche d'égout, buvait les cantiques pieux des machines à coudre. Le ronflement régulier des tuyaux de vidange, le souffle léger de la vie qui monte et qui grince aux poulies. Le bruit, de plus en plus fatigué, est celui de la vie. Thank you. Toujours d'Enescu, c'est la sonate numéro 3 pour violon et piano. Et elle terminera aussi cette émission. Je voudrais juste vous lire deux poèmes avant de vous quitter. L'un s'appelle « Refus du poème ». Les filles du chant sont venues. Veux-tu de nous ? Nous sommes nus. Nos lèvres sentent la lavande. Je songe aux ravins de Finlande où dorment des soldats de gel. Les vierges de sel du poème m'ont dit « Il est temps qu'on nous aime, nous sommes nus sous la peau. » Je songe au navire sous l'eau, noyé derrière les vitrines. Les molles putains de mon sang me crient « Lâche pied et plonge que les poissons sont frais muets. » Je songe aux forçats d'Allemagne. Ils sont maigres, maigres sous le fouet. Les douées mères du sommeil me choient. « Couche-toi !» Les orteils dressés vers la pointe du somme. La belle au bois qui dort dans l'homme ne se nourrit que de baisers. Je songe aux énormes brasiers qui brûlent autour de la terre. La vieille édentée de la mort m'a dit « Chaque cheval a son mort, ton lot sur terre est la mort lente. Que ça te déplaise ou non, chante, nu, n'a droit au merci. À quoi penses-tu, ombre vague ?» Oh, très cher, je songe à Prague. Je n'entends pas, je n'entends plus les prières de ces synagogues. Ce poème de 43, et vous avez cru comprendre que les Juifs de Tchécoslovaquie à l'époque avaient tous été déportés. Dernier poème avant de vous quitter, s'appelle Tout à coup. Tout à coup, j'étais en train de lire un livre quand tout à coup je vis ma vitre remplie, son œil absent d'oiseau léger et ivre. Oui. Il neigeait. La folle neige, elle tombait, tranquille et fraîche. Dans le cœur, tout troué comme un filet de pêche. C'était si bon. Et j'étais ivre de ces flocons, heureux de vivre, que ma main oublieuse laissa tomber le livre. En ai-je vu neiger la neige dans le cœur nu ? Adieu. Que n'ai-je su garder dans mon cœur un peu de cette neige ? Toujours en train de lire un livre, toujours en train d'écrire un livre. Et tout à coup, la neige tranquille dans ma vitre. Voilà, je vais vous quitter, en espérant simplement vous avoir donné la folle envie de lire, si vous le pouvez, Benjamin Fandan. Sinon, vous trouvez ces textes que je vous ai lus dans le site Esprit Nomade. Esprit et nomade, c'est au pluriel et ça se tient. Au revoir.